Pottery with Soul, ça vous évoque quoi? Le titre d'une chanson, un lieu cosy ou encore le nom d'un parfum? Ce sont de bonnes idées, mais ici, pour ce nouvel épisode, il s'agit de céramique. Eh oui, Pottery with Soul, c'est le nom qu'a donné Rosen à sa marque de céramique. Rosen est bretonne. Alors, venant d'une région si chère à mon cœur, j'avais très envie d'enregistrer un épisode avec elle. Elle vit à Bruxelles depuis près de 20 ans. Au départ, elle est professeure de français. Puis, par la suite, elle reprend des études de communication et décroche un job dans le digital pour une grande société. Assez vite, elle ressent l'envie de faire autre chose, être moins connectée, moins sur les écrans et dans le monde virtuel. Elle ressent l'envie de se reconnecter au vrai, à la matière et pourquoi pas à la terre. Depuis un certain temps, elle s'intéressait à la poterie, à la céramique ainsi qu'à la porcelaine. Étant des savoir-faire très présents dans la culture bretonne, comme les faïences de Quimper ou les potiers artisanaux de sa ville natale, Rosen en éprouvait un vif intérêt. Très vite, elle s'inscrit à des cours de céramique et a un véritable coup de cœur. Petit à petit, elle lance sa propre marque de fabrique, Pottery with Soul. C'est une appellation qui, selon Rosen, fait du sens, qui reflète ce qu'elle espère donner dans ses pièces, de l'amour, du temps et beaucoup, beaucoup de patience. Et oui, il en faut de la patience pour faire de la céramique. La création et le façonnage vont au rythme de la terre. C'est elle qui nous impose le bon timing. La terre nous réapprend à apprécier la valeur du temps pour aboutir à un joli résultat. Ce que Rosen aime dans cette activité, c'est de créer de ses propres pièces, revenir aux choses essentielles et selon ses propres envies. En plus de cela, la terre garde les empreintes des mouvements de l'homme. Et oui, chaque pièce est unique. Elles peuvent être similaires, mais ne se ressemblent pas tout à fait. Tout est dans le détail. Le goût pour le délicat, la répétition du geste et le lâcher prise. À cela, Rosen aime se rappeler à elle-même « J'ai une idée et je peux le faire ». Elle se sent libre et la céramique est pour elle sa petite bulle de créativité. Faire de la céramique, c'est mettre beaucoup de soi, ressentir, se libérer et avoir l'opportunité d'explorer de nouvelles pistes. Elle décore ses pièces avec des illustrations proches de la nature, comme des dessins de feuilles ou encore de fleurs. Ses créations sont simples, délicates et épurées, c'est tout ce que j'aime. Revenir à la terre signifie pour elle la durabilité, la traçabilité. Pour cela, elle n'utilise que des produits naturels. Les émaux n'ont aucun colorant, la terre non utilisée est recyclée et émet le moins de déchets possible. Nous nous sommes retrouvés à son atelier boutique, Rosen vêtue d'une robe blanche et de boucles d'oreilles en céramique signée Pottery with Soul, m'accueille avec un grand sourire. Nous prenons place sur la table de travail au milieu de la pièce, entourée de céramique. Micro installé, l'interview peut commencer. Vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 21. Bonjour Rosen.
Bonjour Isaline.
Je suis ravie de te retrouver quelques années plus tard, un peu de l'autre côté de Bruxelles. On s'était rencontrés à Saint-Gilles dans ton premier atelier, il y a de ça quelques années quand je faisais chronique pour la radio. Et voilà, je te suis depuis quelques temps et j'avais envie de t'interviewer à nouveau pour connaître un peu ton évolution et ton parcours. Alors, pour commencer, moi, j'aime bien savoir qui tu es, d'où tu viens. Je crois qu'on a des racines communes. Et ce qui t'a amené aujourd'hui à développer ton activité.
Alors, effectivement, pour les racines communes, on est toutes les deux bretonnes. Toutes les deux bretonnes de la côte sud, ce qui est encore plus rare. Donc voilà, moi, c'est Rosen. Je suis arrivée en Belgique en 1999, donc c'était vraiment à ce moment-là. Et depuis, je ne suis pas repartie. Donc j'habite ici depuis plus longtemps que j'ai habité quasiment en France. Et j'ai commencé à faire de la céramique maintenant il y a une douzaine d'années, peut-être même 13 ans, je ne sais plus très très bien. Mais j'ai débuté ça en activité pour me détendre après des longues journées de travail derrière l'ordinateur. Et je me souviens que je passais tous les soirs devant cet atelier qui se situe au boulevard de la Holue à la rue Vaute, donc les ateliers de la rue Vaute. Et je passais et je me disais un jour j'irai. Donc un jour j'y suis allée, c'était tous les jeudis soirs et ça me donnait rendez-vous avec autre chose que mon ordinateur. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de ma santé, j'ai accès ma pratique de la céramique de façon plus intense. Donc, moi, j'ai fait un burn-out en 2018. Et entre 2018 et 2020, donc, j'ai été en arrêt maladie. Et j'ai vraiment énormément pratiqué à ce moment-là parce que c'était vraiment pas métaphoriquement, mais vraiment le moment où je pouvais aller dans ma cave. J'allais dans ma cave où j'avais mon tour et je me coupais du reste du monde et j'étais juste avec mes mains, la terre, la sensation, ne plus rien penser et faire le vide.
Donc, ça a été un peu thérapeutique pour
ça
toi.
A été complètement thérapeutique. Ouais. C'était vraiment le moment où je ne faisais pas beaucoup de pièces, mais c'était juste me mettre les mains dans la terre. Je pense que les gens qui ont eu un burn-out savent très bien qu'en fait, on a un niveau d'énergie qui est extrêmement bas. Allez, prendre une douche, se brosser les dents et peut-être aller chercher les enfants à l'école et on est déjà épuisé. Donc, ce n'était pas tous les jours, ce n'était pas 6 heures par jour, mais c'était la seule chose qui me donnait envie de me lever et de faire quelque chose. Voilà. Je pense qu'il y avait une connexion à une sensation de retrouver un peu l'enfance dans ce moment où on est très insouciant, où on ne se prend pas trop la tête, patouillé. Moi, j'avais toujours aimé ça quand j'étais petite dans le jardin de mes grands-parents. Et si tout se passait bien, voir un objet évoluer sous ses doigts, mais ce n'était pas l'objectif principal. C'était vraiment juste, voilà, ne plus rien penser, être dans l'instant présent.
D'accord. Et est-ce que déjà tu avais, parce que tu parlais de l'enfance, tu as des prédispositions à... Tu aimais déjà jouer ou faire des choses avec tes mains? Tu étais déjà manuelle quand tu étais plus jeune ou...
Alors j'étais manuelle, je pense, parce que ma maman était institutrice de maternelle et qu'on faisait beaucoup de bricolage à l'époque. Effectivement, j'ai fait des travaux de fil avec ma maman. Je me souviens qu'on faisait de la broderie, du point de croix, de la tapisserie. Mais j'avais un attrait pour le dessin. Ouais. Mais pour des raisons que je ne saurais pas expliquer maintenant, j'ai fait de la danse classique et de la flûte traversière au conservatoire, donc rien à voir. Je pense qu'il y avait certainement un attrait pour les choses manuelles artistiques, mais il ne m'a pas été donné l'occasion de tester, quoi, tout simplement.
Ah oui.
Mais je dessinais comme ça, je griffonnais sur un petit cahier, j'aimais bien ça. Mais ce que j'ai bien aimé, et c'est vrai que j'ai repris l'aquarelle aussi, hein, à un moment donné, quand ça allait aussi un petit peu mieux, mais il me manquait une 3D. Il me manquait une sensation d'objet, de quelque chose qu'on pouvait tenir dans ses mains, en fait.
Et utiliser chaque jour dans... Enfin, parce qu'une aquarelle, oui, on la pose, on la regarde, etc. Mais c'est vrai qu'un objet, comme tu dis, on peut l'utiliser tous les jours, que ce soit pour sa cuisine ou autre chose, mais...
C'est vrai, et en même temps, c'était pas du tout la finalité première pour moi, quand j'ai fait de la céramique, l'utilisation des objets. Je pense que j'ai toujours été attirée par le motif, le décor, le dessin, les porcelaines anglaises.
Ouais.
Quand j'allais faire des échanges scolaires, je me souviens, j'aimais beaucoup ces bleus-là, les Doulton, je crois que ça s'appelle comme ça. Très, très fin, très précis, mais qu'on pouvait tenir dans la main. C'est vrai qu'on pouvait voir en 3D, mais après, que ce soit une tasse, une soucoupe, une théière, à la rigueur, ce n'était pas trop le sujet. La réflexion est venue des objets quand j'ai commencé à avoir beaucoup de choses à la maison.
Ouais.
Et quand j'ai commencé à me dire que je trouvais un intérêt autre que juste thérapeutique, en fait, aussi. Parce que je pense que la céramique m'a permis de me rendre compte que je pouvais prendre des décisions. Quand on est en burn-out, on n'a pas du tout confiance en soi, on a perdu toute l'estime de soi, on ne sait même plus quoi choisir, si on met une chaussette bleue ou une chaussette verte. Et on a eu aussi, je pense, enfin en tout cas moi dans mon cas, une expérience où on a comme été muselé, c'est-à-dire que notre voix n'avait plus trop de place, trop d'importance, nos idées qui avait peut-être avant un écho dans un management, n'a pas eu cet écho dans un autre management. Et j'avais vraiment plus du tout l'impression de savoir même prendre une décision. Mm-hmm. Et le fait de commencer ce petit business petit à petit m'a permis de faire des choix, de poser des choix, de prendre des décisions, de voir si ça marchait, si ça marchait pas. La plupart du temps, ça marchait. Et d'avancer comme ça et de reconstruire une confiance, en fait, vraiment pas à pas. Donc, la céramique a eu aussi cet aspect thérapeutique que j'aurais certainement eu si j'avais commencé, je ne sais pas moi, un business dans l'aquarelle. Mais ça s'est construit aussi comme ça, dans le sens où je n'ai pas dit du jour au lendemain, je vais tout plaquer, je vais commencer à faire de la céramique.
Oui.
J'ai eu besoin d'un cheminement, j'ai eu besoin, comme je disais, de reprendre confiance en moi parce que passer finalement d'un stress de salarié à un stress d'entrepreneur, c'est pas non plus rendre service quand on n'est pas bien dans sa tête. Et ne plus me sentir dépendante de qui que ce soit, donc avoir en fait une certaine liberté qu'on a moins quand on est salarié, clairement. Je pense que j'avais ça en moi et oui, ça m'a vraiment permis de m'épanouir et de me dire, premièrement, je sais faire des choses. Deuxièmement, je sais prendre des décisions pour que, troisièmement, mon business soit quand même suffisamment rentable. J'arrive aussi à en parler sur les réseaux sociaux pour avoir une visibilité. Donc tout ça, ça s'est construit vraiment sur les 5 dernières années. Ce n'est pas arrivé tout de suite du jour au lendemain. C'est toute une série de petites étapes, de petits pas qui m'amènent maintenant là où je suis.
D'accord. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans ton atelier ici à Woluwe-Saint-Lambert. Si je ne me trompe pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je t'avais rencontré et aujourd'hui comment tu as fait évoluer ton projet de céramique? Parce que je pense qu'il y a eu une certaine évolution. Et voilà, est-ce que, si tu peux nous raconter un peu ce cheminement.
Donc, quand on s'était rencontrés, j'avais l'atelier à Saint-Gilles et j'étais en mi-temps thérapeutique.
D'accord.
À ce moment-là. Et puis, le Covid est arrivé, nous étions
dessus. Ah, ouais.
Je ne me voyais pas continuer à payer un loyer sans savoir à l'époque combien de temps ça allait durer. Donc, j'ai finalement rapatrié tout mon matériel dans mon garage, dans ma cave. J'ai continué à mon mi-temps thérapeutique et puis ensuite je suis partie à 4/5, hein, j'ai jamais été à temps plein, j'étais à 4/5 et pendant 2 ans j'ai combiné ça. En termes de faisabilité, c'était tout à fait possible. J'avais simplement quand même l'impression d'être entre guillemets punie quand je faisais mon activité de céramiste parce que j'étais dans ma cave et dans mon garage, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de lumière, dans une cave donc il y a des odeurs aussi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, soit je trouve un endroit, en fait, où continuer cette activité, où j'arrête, où je mets en pause, parce que c'était plus satisfaisant. Il y avait trop d'à côté qui n'était pas très agréable. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu un changement de poste au sein de ma société. Et j'ai posé la question si c'était OK de passer à 3/5, ce qui a été accepté à ce moment-là. Et il s'est avéré que j'ai trouvé un local. Il s'est avéré que j'ai trouvé un local à côté de la maison. Donc, tout s'est bien agencé. J'étais à 3/5 lundi, mardi, mercredi pour mon travail salarié. Et jeudi, vendredi, samedi pour l'atelier. J'ai vite compris que c'était quand même beaucoup de charges de travail. Donc, je me suis réservée vraiment je me suis réservé les samedis et dimanches pour être avec ma famille, pour me reposer. Ce qui fait que ça a été quand même un petit peu chargé, parce que j'avais vraiment 5 jours hyper chargés. Mais ça a fonctionné en termes de vente, de chiffre d'affaires, parce que c'est vrai que bah, quand on a aussi un endroit, un studio, un atelier, on a des charges.
Ouais.
Donc, ce que je n'avais pas dans mon garage, l'atmosphère agréable, la luminosité, c'est bien, mais c'est vrai que ça a un coût aussi. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que ça va être gérable? Est-ce que tu vas pouvoir continuer comme ça? Et puis à la fin de l'année, en fait, la question a trouvé une réponse un peu par elle-même, puisque mon employeur m'a demandé de recommencer à travailler à temps plein. Et je ne me voyais pas du tout travailler à temps plein. Le 4/5 ne fonctionnait pas non plus pour eux. Et je pense qu'un 4/5, de toute façon, pour moi, n'aurait pas fonctionné ici. Je n'aurais jamais eu les rentrées financières pour payer. Donc voilà, ça s'est soldé par finalement une rupture à l'amiable. Donc depuis janvier 2025, je suis en indépendante temps plein. Et je suis un peu à la recherche de cet équilibre parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai gardé vraiment comme un fil blanc, ou comme un fil rouge plutôt. Voilà, je ne veux pas devenir une personne qui est indépendante et qui va faire un burn-out. Donc, pour moi, il y a toujours cette question, où est-ce que tu en es dans ton corps, dans ton physique, dans ta façon de concevoir les choses, dans ton rapport à l'argent, dans ton émotionnalité, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, comment est-ce que tu te sens? En gros, vraiment, je me pose cette question tous les matins.
Qu'est-ce que tu ressens
Comment tu te sens?
Comment tu vas, en fait?
Voilà, comment tu vas? Et j'écoute vraiment des signaux. Je sais que là, depuis 4-5 jours, j'ai les insomnies à répétition. Je pense que je commence à avoir une idée de pourquoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retiré du burn-out, c'est-à-dire vraiment m'écouter pour ne pas retomber dans une situation identique. Parce que je pense que qu'on soit indépendant, fonctionnaire ou salarié, ça peut toucher tout le monde.
Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et souvent, ça touche les gens qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font ou qui sont peut-être qui prennent trop à cœur ce qu'ils font. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça peut.
Il y a souvent, c'est multifactoriel, mais c'est vrai que moi, pour moi personnellement, je sais que j'ai identifié les difficultés à demander de l'aide.
Ouais, c'est ça.
La capacité, voilà, la difficulté à dire non et un perfectionnisme poussé à l'extrême. Pour moi, particulièrement, quand on combine tout ça, c'est vrai que ça fait une petite bombe. J'ai beaucoup plus de facilité à dire non maintenant. Maintenant, il y a toujours aussi cet aspect financier. Est-ce que je dis non à un projet qui pourrait éventuellement me rapporter de l'argent, mais qui va à l'encontre de mes valeurs? Ou est-ce que je dis non, mais alors dans ce cas-là, il faudrait que je cherche autre chose? Et il faut aussi se creuser les méninges pour trouver cette autre chose. Donc, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai une ligne directrice, effectivement, qui est je n'irai pas dans certaines directions.
Oui, déjà, tu sais ce que tu ne veux pas. Après, voilà. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut réellement.
C'est ça.
Mais déjà, c'est... Et puis, comme tu l'as très bien souligné, si tu te bases aussi tous les matins sur ton ressenti, sur comment tu te sens, je pense que aussi, c'est un bon indicateur quand tu... Quand tu cherches autre chose ou un autre job où tu te dis « Ah non, mais là, je sens que ça ne va pas aller. » Donc, il vaut mieux pas y aller. Souvent, le corps sait mieux que nous. C'est mieux avant nous. Et alors, moi, j'aimerais juste revenir sur la céramique. Donc, tu avais dit au tout début, donc tu avais poussé les portes d'un atelier pour te former. Mais c'est quelque chose qui t'a toujours attiré? C'est quelque chose que tu aimais déjà, la céramique, ou pas du tout? Enfin, pas du tout.
Si,
tu aurais pu faire autre chose.
Matrice, entre guillemets.
Ouais.
Les auditeurs ne le verront pas, mais tu vois les deux petits vases qui sont là, les bleus.
Très joli.
Voilà. c'est un potier breton.
D'accord.
Dans le centre Bretagne où mes parents ont eu leur maison. Qui vend sur un petit marché juste à côté de là où mes parents habitent. Et je suis tombée en amour devant ses émaux. Et en fait, il habite juste à côté. Donc, je suis allée le voir. J'ai visité son atelier. On a énormément parlé. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. Il a plus de 65 ans. Autodidacte, complètement autodidacte. Et je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses qui sont absolument magnifiques et qu'on peut faire.
Ouais.
Et il y a eu un appel, en fait, certainement, à ce moment-là, quand j'ai fait la céramique, quand j'ai commencé à faire les cours de céramique, je me suis dit, je veux en faire pour faire des pièces avec des émaux comme ça. Ce que je n'ai pas du tout fait.
Mmh.
je travaille pas les émaux. Mais par contre, j'ai trouvé, moi, ce qui me plaît, c'est la décoration des pièces avec autre chose que des émaux.
Ça se voit, ça se voit. Enfin, effectivement, c'est très joli. Il y a un côté décoratif, en fait, dans la céramique.
J'ai toujours aimé les arts décoratifs. Ouais. Art déco, art nouveau. Quand j'étais petite, j'avais des livres de calligraphie, d'illustration. J'ai toujours aimé les ors, le rococo, le baroque. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un univers qui me définit. Mais je pense aussi que c'est parce que les émaux, il y a un aspect de chimie. Donc, pour faire des émaux, c'est des formules chimiques. Et en plus, le potier dont je parle, il cuit dans un four à gaz. Et les fours à gaz vont avoir des effets qui sont complètement différents d'un four électrique. Évidemment, quand on est en ville, dans un atelier comme le mien, c'est plus compliqué. C'est une gestion différente. Donc, je savais que j'aurais du mal, de toute façon, à reproduire des choses comme ça. Donc, je me suis dit, mais si ce n'est pas ce qui me plaît, voilà, si là, passer du temps à peser des ingrédients pour des formules chimiques, ce n'est pas ce qui va me donner envie de me lever tous les matins. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va me donner envie de me lever tous les matins? Et c'est là où je pense qu'en fait, on a un appel et puis on trouve sa voie.
Mm-hmm. Qu'en quoi le savoir-faire peut être différent en fonction de ses attentes. Et là, je te rejoins aussi là-dessus. Par exemple, la pâtisserie. C'est pas que j'adore les pâtisseries, mais en faire, pour moi, c'est toujours compliqué parce que c'est trop millimétré, trop... Enfin, voilà, c'est trop mathématique pour moi.
Et donc, un petit twist. Voilà. On n'a pas dans le salé.
Voilà, c'est ça.
De lâcher prise.
En fait, c'est plus créatif, le salé. On peut, tiens, on mettrait bien ça en plus, etc. Alors que le sucré, si on ne respecte pas la recette à la lettre, c'est compliqué. Donc, OK. Et alors, comment ça se passe? Comment tu crées? Parce que c'est quand même... on voit, c'est vrai que c'est un métier qui est quand même assez... où il y a un savoir-faire derrière qui est quand même assez complexe.
Oui, c'est très complet parce qu'effectivement, non seulement on doit créer des pièces avec des formes qui sont pratiques à l'usage si on fait de la poterie pour de la vaisselle de tous les jours. Moi, je fais des palettes en céramique pour les artistes aussi, des aquarellistes ou des gens qui utilisent de la gouache. Donc, on doit aussi se poser des questions de quoi est-ce qu'ils ont besoin, comment est-ce qu'ils travaillent. Donc, il y a déjà, en fait, une approche sur la fonctionnalité de l'objet et la meilleure utilisation pour la personne. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait des croquis. On fait des petits croquis. Évidemment, il y a l'aspect pratique. Et puis après... il y a l'aspect esthétique qui vient rentrer en ligne de compte. Moi, je sais qu'il y a eu une mode à un moment donné, il y a quelques années, ou peut-être toujours d'ailleurs, hein, tu sais, de ces énormes anses.
Oui.
Des tasses avec des
disproportionnées.
Oui, oui. Et il y a eu un gros engouement pour ça. Je dois être honnête, j'ai essayé. Je me suis dit, j'aime pas du tout cette façon de tenir une tasse. Donc... moi, je ne vais pas aller faire des objets que je ne tiendrai pas en main ou que je n'utiliserai pas chez moi. Je suis ma première cliente, en fait.
Oui, c'est ça, mais c'est important, je pense. Hein.
Tout à fait. Il y a des gens qui adorent ces énormes anses et c'est tout à fait OK. Je crois qu'on me demanderait de faire une pièce comme ça, je dirais non, parce que voilà, il n'y a pas mon ADN dedans, il n'y a pas ma personnalité. Donc, vous voyez, l'aspect fonctionnel, l'aspect esthétique... et puis, une fois qu'on a fait la pièce, il faut effectivement savoir comment la finir. Et la finir, il y a énormément de possibilités en céramique. C'est ça qui rend aussi cet art extrêmement complet et complexe. Donc, il y a bien sûr l'émail.
Oui.
L'émail, ça va être, en gros, je simplifie, mais énormément de silice. Et du coup, la silice, quand ça fond, c'est du verre. Donc, c'est ça qui va donner cette protection, qui va faire que la pièce est imperméable. Souvent, sauf si on rajoute d'autres ingrédients, ce sera aussi cet aspect très brillant. Mm-hmm. Ça, je dirais que c'est le plus facile, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on pose un émail. Maintenant, si on a créé ses propres émaux avec des tas de recherches, c'est pas facile du tout, comme j'en ai déjà parlé. Moi, j'aime la couleur. Et donc, une façon de donner la couleur à des pièces en céramique, c'est aussi avec des engobes. Et les engobes, c'est des pigments naturels ou artificiels, créés, mélangés à de la terre, tout simplement.
D'accord.
Avec un petit peu d'eau pour pouvoir en fait appliquer ça sur la céramique quand elle est à consistance cuir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été cuite du tout et elle est un petit peu déjà plus rigide.
Ouais. Ok.
Et donc, voilà, on a soit des couleurs très mates, si on ne met pas d'émail par-dessus, on peut avoir aussi des couleurs qui sont plus nuancées. Et là, on peut faire en fait des effets de dégradé. On peut mélanger plusieurs couleurs. Donc, il y a tout un apprentissage. La céramique, moi, je me souviens, quand j'allais au cours à la rue Vaude, je posais une question et la prof me disait, mais bah, essaye.
Ouais.
Et en fait, c'est ça. Mm. C'est, on ne peut pas garantir le résultat avant d'avoir essayé, tout simplement parce que les terres qu'on utilise, il y a plein de terres différentes. Moi, j'utilise le grès, du grès moucheté, mais on pourrait utiliser de la faïence. La faïence, c'est souvent ce qui est utilisé dans les cafés céramiques parce que ça va cuire à moins haute température et les couleurs vont être beaucoup plus vibrantes. Ce qu'on utilise pour les majoliques aussi, les faïenceries de Gien, tous ces faïenceries qui sont avec des motifs très, très vifs. Donc, en fonction de la terre qu'on utilise, en fonction de la température de notre four à laquelle on cuit nos pièces, en fonction de l'épaisseur de l'engobe qu'on aura donné, si c'est plus léger, s'il y aura un effet de transparence, si c'est plus épais, ben, il y aura cet effet un peu masse. Après, les dessins qu'on va faire dessus, il y a des façons aussi de faire des choses différentes. Donc, il faut vraiment tester plein de choses. Et à un moment donné, en fait, on va finir par se dire, c'est cette voie-là qui m'intéresse. Parce que je connais personne qui fait tout dans la céramique.
Mmh.
C'est juste tellement vaste. Il n'y aurait pas assez de trois vies pour avoir maîtrisé tout. Évidemment, on peut faire un peu tout. Mais maîtriser tout, parce que c'est quand même dans la répétition que vient le geste et qu'on travaille plus vite. Il ne faut pas oublier que c'est un métier artisanal, donc il y a un coût. Plus on fait les mêmes gestes et qu'on répète les mêmes gestes, plus on les fait vite et plus du coup l'activité peut devenir rentable. Mais aussi, la pièce sera plus belle au fur et à mesure. Et plus belle, je ne veux pas dire plus parfaite, mais en tout cas plus dans ce qu'on a envie de donner, l'aspect qu'on a envie de donner à la pièce.
Ok. C'est vrai, ça vaut pour beaucoup de métiers. Hein. C'est effectivement à force de faire, de répéter. Et tu avais donné un très bon conseil, hein, d'essayer, en fait. Voir ce que ça donne, en fait.
C'est ça. Il faut essayer. Alors, la seule chose qui est un petit peu délicate, c'est il faut quand même se souvenir qu'on utilise un matériau qui a mis des millions d'années à être créé. Donc moi, je dis toujours à mes élèves, parce que maintenant, j'ai commencé à donner des ateliers, essayez, mais on ne va pas tout cuire. Donc, on choisit les pièces qu'on va faire cuire, qui sont les pièces vraiment finales, dans le sens où on a fait plein de tests avant sur des pièces qui ne seront jamais cuites. C'est possible parce que justement, je ne vais pas travailler avec des tas d'émaux. Donc, ils savent que les pièces ici, soit elles sont émaillées en transparent sur des engobes colorées, ou elles seront émaillées en blanc, et c'est assez facile, dans l'atelier, il y a plein de pièces, ils peuvent se rendre compte de l'aspect de la pièce. Je pense qu'effectivement, c'est un petit peu plus compliqué si on travaille avec des tas d'émaux différents, parce qu'on doit les faire cuire avant d'avoir le résultat final. Mais dans ma pratique, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais les choses que je fais, c'est que tant que je ne suis pas satisfaite d'une pièce, je sais que je peux la recycler.
Mm-hmm.
Alors, c'est un peu compliqué quelquefois quand on a mis des engobes, parce qu'on doit les gratter, les enlever. Ouais. Mais une fois que la pièce est propre à nouveau, ben on la remet dans un bac de recyclage. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Elle peut être utilisée à nouveau. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que l'électricité, je pense que les gens, quand je donne mes ateliers, ne se rendent pas compte. On a une première cuisson. Moi, je fais la première cuisson biscuit à 980 degrés. Ça dure 10 heures. Et la deuxième cuisson, je monte moi jusqu'à 1250 degrés. Et c'est quand même 12 heures. Donc, on a pour une pièce 22 heures de cuisson. De temps en temps, j'applique un lustre or qui est 4h30 à 750 degrés. Mmh. Donc, on peut aller jusqu'à 26h30 de cuisson pour une pièce. Donc, ce n'est pas non plus très économique. Donc, il faut faire attention à l'aspect écologique et l'aspect économique.
Mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un processus qui est assez long parce qu'il faut penser la pièce, ensuite la faire cuire. C'est vrai que c'est
première
tout
fois.
Ouais, mais il vient... Non, c'est incroyable. Enfin,
c'est pour ça que quelquefois, j'ai des clientes qui viennent me voir et qui me demandent est-ce que vous faites des commandes? Je dis oui, je peux prendre des commandes.
Oui.
est-ce que c'est possible dans 2 semaines?
Non.
Non. Parce que le processus,
ouais.
Je peux faire une pièce aujourd'hui, la tourner aujourd'hui, la tournasser demain et en fin de semaine, elle sera sèche. Mais moi, je ne vais pas la mettre dans un
séchage derrière.
Oui, elle s'essale. Oui, tout à fait, il y a le séchage. Mais je ne vais pas la mettre dans un four vide.
Donc, ouais.
Tu vois, aussi attendre que mon four soit plein.
Ah, oui.
Pour pouvoir la caser. Et je dois aussi attendre que le four émail soit plein pour pouvoir la caser. Donc, il y a généralement, entre le moment où la pièce a fini d'être fabriquée et le moment où elle passe dans mon four, étant donné ce que je fais, les quantités, etc., il y a au moins 3 semaines. Donc, de toute façon, chez moi, je dis entre 4 et 6 semaines.
D'accord.
Pour une pièce.
Oui, mais ce qui est aussi... ce qui est OK. En fait, c'est ça, dans l'artisanat, le problème aujourd'hui, c'est que ça commence à changer, heureusement, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que qui sont beaucoup dans l'immédiateté, en fait. Ah, mais je peux l'avoir pour demain ? Bah non.
C'est un petit peu le problème de la société actuelle, c'est qu'on est devenu branché non plus à l'heure, non plus à la minute, mais quasiment à la seconde.
Oui, oui. Et puis, il faut être rapide, que ce soit disponible. Et c'est vrai que quand on travaille dans l'artisanat, ce sont des délais pour un travail bien fait.
Et en fait, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a râlé.
Oui, oui.
Je pense que c'est juste...
Les gens ne se rendent pas compte.
Voilà.
Oui, oui.
On ne sait pas. On ne sait juste pas. Donc, je trouve ça chouette aussi, maintenant que j'ai plus de temps, de pouvoir commencer à donner des ateliers pour justement montrer le processus, parce que ce n'est pas juste pour moi, entre guillemets, justifier le prix de mes pièces, mais c'est la prochaine fois qu'elles vont aller sur un marché, qu'elles vont tenir une céramique dans leurs mains, elles vont comprendre effectivement,
ouais, je dis
elles, parce que j'ai quasiment que des femmes,
ouais.
les personnes vont comprendre tout le processus qu'il y a derrière, en fait, ce joli étal dans un marché.
Ouais, oui, c'est ça. Et puis aussi, c'est ce qui justifie aussi souvent le prix. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, comme tu te dis, voilà, j'essaie de mutualiser pour faire cuire mes pièces, etc. C'est pas, voilà, on est dans une production qui reste quand même limitée. On n'est pas sur 1000 pièces à la minute. Donc forcément que le prix va se répercuter dessus.
Clairement, clairement. Et il y a des pièces que j'ai faites et que je ne referai plus, alors qu'elles ont très bien marché, mais elles n'étaient pas rentables.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que si j'avais dû les rentabiliser, c'était des pièces que j'aurais dû vendre, une tasse par exemple, à 65, 60, 70 euros. C'est compliqué de mettre
70
euros dans une tasse.
Ouais.
Je peux comprendre.
Ouais.
C'est un objet usuel, on a peur de la casser. Par contre, j'arrive à mettre plus de temps et de travail sur des pots d'artistes, des palettes, parce que c'est un objet unique. Une personne va en acheter un. Et quand on en achète juste un, et que c'est vrai que cet objet a une place à part, on a un rapport différent au prix. En fait, ce que j'avais fait en tasse avec une anse, je le fais en pot d'artiste. Il n'y a pas d'anse, il y a un repose-pinceau. Et là, je peux vendre cette pièce à 65 euros, il n'y a pas de souci. Donc, il y a aussi tout un travail de réflexion qu'on doit avoir. Ce n'est pas parce qu'on aime bien faire certaines pièces qu'on va continuer.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et quand on voit un peu ce que tu fais, donc tu fais des tasses, tout ce qui est vaisselle, tasses, vases... des assiettes aussi.
Alors les assiettes, je fais de temps en temps des petites assiettes. Moi, j'aime les petites assiettes à dessert et je fais des grands plateaux à gâteaux.
D'accord, d'accord.
Quand je te disais que j'étais ma première cliente,
tu fais ce qui te plaît, quoi.
Je fais ce qui me plaît. J'aime les gâteaux. J'ai toujours aimé jouer à la dinette quand j'étais petite. J'aime les tasses. Je suis une fan de fleurs. J'adore les vases. Et je trouvais qu'on ne vendait pas ou qu'on ne trouvait pas suffisamment à un moment donné des petits vases pour mettre quelques fleurs ramassées dans son jardin. Et on est tout de suite, quand on va chez le fleuriste, avec des grands bouquets qui coûtent cher. On peut faire des petits bouquets à 10, 15 euros. Et du coup, il faut des petits vases. Donc, j'ai décliné un petit peu les petits vases. Les tasses, ouais, je suis une fan de thé et de café. Et puis, Les boucles d'oreilles sont arrivées plus tard.
Oui, je vois ça, mais c'est superbe. En plus, elles sont très belles.
Alors, wow. Pour les boucles d'oreilles, contrairement au reste de mes pièces où j'utilise du grès, mm-hmm. j'utilise de la porcelaine.
D'accord.
Et alors, j'utilise de la porcelaine papier. C'est de la porcelaine qui contient du papier. Et ce qui va faire que c'est assez rigide et on peut la manipuler facilement. Mais par contre, quand ça va passer au four, le papier qui est à l'intérieur va brûler. Et on se retrouve avec un produit très léger.
D'accord.
Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que des boucles d'oreilles en porcelaine, ça peut être
lourd.
Mais quand on utilise la porcelaine papier, eh bien, on se retrouve avec des boucles d'oreilles qui ne font même pas 3 grammes, 2 grammes, 1 gramme pour certains. On ne les sent même pas. Quoi.
Mm-hmm.
Et d'abord, j'aime bien les boucles d'oreilles, mais c'était aussi une façon pour moi de rentabiliser l'espace dans mon four. Parce que j'ai des petits espaces. Mm-hmm. Entre les pièces,
ouais,
puisque
ouais.
quand on fait le four émail, on ne peut pas coller les pièces les unes aux autres, hein, sinon bah, l'émail va faire qu'elles vont fusionner ensemble. Et donc, je peux placer des petites boucles d'oreilles,
D'accord.
Mais qui, quand même, petites, mais qui prennent du temps à faire.
Ouais.
Il y a énormément de ponçage, de lissage. Mes décorations, je les fais à la main sur les porcelaines, donc c'est vrai que c'est lent aussi. Mais je pense que c'est ce que j'aime, c'est cette lenteur en fait dans le geste.
Oui, c'est ça.
Ouais.
La beauté du geste. C'est vrai que c'est, ouais, c'est un travail fastidieux et effectivement, je pense que c'est ça va pour des gens qui sont patients. Quelqu'un qui est impatient, ça va être compliqué.
C'est
ou qui veut avoir le résultat rapidement, bah déjà il faut attendre. Il y a tout un processus avant que la pièce soit on va dire opérationnelle. Donc c'est vrai que c'est une qualité d'être patient quand on est céramiste.
Il faut être patient, il faut être relativement précis et il faut être structuré, comme tu disais, pour pouvoir planifier toutes les étapes.
Mm.
Et aussi dans ma décoration, je dois savoir avant ce que je vais. On doit avoir une image du résultat final avant de commencer la pièce. Parce que dans les processus que j'utilise, qui sont surtout le sgraffito, le mishima, le inlay, alors ça va sonner chinois pour la plupart des gens, mais ce sont des techniques de décoration qui interviennent au moment où la pièce n'a jamais été cuite, puisqu'en fait on vient graver la terre. Et on doit réfléchir au résultat final pour pouvoir avoir les étapes qui sont respectées. On travaille avec des réserves à la cire, on travaille avec des pochoirs éventuellement. Et donc, on doit voir les étapes, on doit avoir décomposé les étapes parce qu'au tout début, ça m'est arrivé de me dire « mince, j'ai oublié de faire ça
oui. ».
Et en fait, j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Passer à un autre motif parce que bah, je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez organisé aussi à ce niveau-là.
Oui, respecter. Mais c'est vrai. Enfin, c'est pas, dans toutes les disciplines, ce n'est pas forcément la même chose. Mais là, effectivement, si on oublie une étape, c'est compliqué de revenir en arrière.
Oui, ouais. Sur certaines étapes, on peut rattraper le truc. Mais à partir du moment où on a commencé à graver, mettre la couleur, là, c'est compliqué.
Mm-hmm. Et alors par rapport à toutes tes créations qui sont assez, moi je trouve que tu utilises des couleurs assez assez douces quoi, pastel. C'est oui. Très joli en fait, c'est très doux à la vue et c'est ça fait du bien en fait parce que voilà souvent, enfin parfois on peut voir aussi des vaisselles qui sont très pop, très là je sais pas, il y a quelque chose où on voit que c'est très épuré en même temps très doux. Et moi, ça me fait rien que de rentrer dans ton atelier boutique, ça fait du bien. En fait, c'est hyper apaisant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé en arrivant. Je me suis dit, c'est très apaisant ici. Donc,
mais je pense que ça vient du fait que je vois un monde qui va vite. Je vois des gens qui sont épuisés. Je fais partie d'une association qui s'appelle Madame Papillon et qui aide les femmes en situation de burn-out. Donc, on voit des femmes qui arrivent, qui sont épuisées, qui sont surmenées. On voit des jeunes qui sont tout le temps sur leur téléphone, dans l'instantanéité. Il n'y a plus trop de liens. Il n'y a plus de moments, j'ai l'impression, où on se pose vraiment.
Oui, oui.
Et c'est vrai que moi, j'ai eu besoin, quand j'ai installé mon atelier, ou même avant, de faire des pièces qui me permettaient d'être dans une sorte de cocon.
Mmh.
Et quand je suis venue ici, j'ai eu besoin aussi de recréer ce cocon avec des tons de bois doux, avec des matériaux crème qui aussi permettent de voir la céramique. Parce que c'est vrai que si j'avais aussi une décoration hyper flashy, ça prendrait peut-être le pas sur mes pièces. Mm-hmm. Mais oui, on reste dans les tons très, très pastel, très... en fait, très moi. Hein.
Oui,
voilà,
c'est ça.
J'ai toujours aimé le rose. Je m'appelle Rosane, ça veut dire rose. J'aime des choses qui ne font pas mal aux yeux. Et alors, c'est très personnel, là aussi. Quelque chose qui fait mal aux yeux, pour moi, ne fait pas mal aux yeux à quelqu'un d'autre. Donc, on est dans sa propre sensibilité quand on fait de la céramique. En mm-hmm. fait, on s'expose parce ouais. qu'on met de nous complètement, comme un artiste, tout le monde. Et je crois que moi, effectivement,
oui, c'est, ça.
C'est cet aspect-là que j'ai envie de nourrir chez moi. C'est la douceur, l'harmonie, quelque chose de calme et d'apaisant.
Et ça reflète ton identité, effectivement. C'est ça. Enfin,
tout à fait.
Quand les personnes achètent une pièce chez toi, c'est aussi une partie de toi qui les emmène avec eux.
La plupart du temps, oui, ils savent que c'est moi qui les fais. Ouais. Donc, ils savent très bien ce qu'ils prennent avec. Oui, c'est vrai.
Et alors, au quotidien, qu'est-ce qui t'inspire, en fait, pour, qu'est-ce qui te donne des idées pour créer
Beaucoup, ce que je peux voir au niveau architecture, en fait. À Bruxelles, j'ai fait une collection il y a quelques années qui s'appelait Art déco, Art nouveau. J'aime beaucoup cette période-là, donc les ors, les choses un peu chargées, entre guillemets, mais avec une forme géométrique. Et donc, on essaye de venir un petit peu épuré quand même. Mm-hmm. Ça passe aussi par des motifs floraux. Donc, effectivement, des fleurs comme sur les tasses de ma collection Jardin anglais ou alors des fleurs... L'émail que j'utilise là, qui est une superposition d'un émail miel et puis d'un émail rose, c'est la collection Cerisier en fleurs. Parce
ah oui,
que,
oui,
en fait,
si, oui,
je
oui.
suis place de mai
ouais,
et il
ouais.
y a plein de cerisiers en ouais. fleurs et ces couleurs m'ont inspiré cette collection. Mm-hmm. Donc voilà, c'est la nature, c'est l'architecture. Et puis j'ai eu quand même un petit creux, j'ai eu même un gros creux de quelques mois. En fait, depuis janvier, depuis la fin de mon travail salarié, j'avais l'impression d'être à la fin d'un cycle. J'avais plus d'idées.
Mmh.
J'étais
Mmh.
un peu vidée. Je pense que c'est parce que j'avais déjà tellement de choses à penser dans ma tête en termes de « Ok, on passe sur un autre
Ouais.
modèle, il va falloir faire plein de choses différentes, apprendre des nouvelles façons de travailler », que j'avais plus la place pour la création. Et en fait, je suis allée en Bretagne cet été. Je suis restée un mois et demi. Et j'habite à Lorient, donc il y a le Festival Interceltique à
Oui.
Lorient.
Ouais.
Et c'était en plein dedans. Il y a eu des expositions. J'avais des expositions de costumes bretons.
Mmh.
Moi, j'ai toujours adoré, je me souviens, voir mon arrière-grand-mère avec sa coiffe et l'épaisseur, la lourdeur des costumes
ouais,
bretons
c'est vrai,
en velours. Et le costume de Lorient, c'est du velours noir avec des motifs de fleurs jaunes, donc c'est souvent de l'or, du rose. Et j'avais participé à un atelier de broderie bretonne à Bruxelles par une
ah,
patriote qui vient de
intéressant.
Riantec. Ouais. Et j'ai un petit, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire passer ce sentiment, cette finesse, cette délicatesse, mais je ne savais pas comment le faire.
Mmh.
Et j'ai un peu griffonné sur un petit carnet de croquis et je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de terre. Je ne pouvais pas faire ça avec le grès. Et donc, j'ai commencé à travailler la porcelaine. Parce que la porcelaine a cette douceur, cette légèreté, cette transparence qui allait me permettre de suggérer des motifs de broderie, en fait.
Mmh.
Et j'ai commencé à travailler sur une collection tout d'abord de palettes, parce que c'est toujours plus facile de travailler à plat. et les palettes peintes et plats. Donc, ça c'est souvent là que passent mes premiers tests.
D'accord.
Et j'ai été très contente du résultat. Donc, c'est de la porcelaine juste avec un émail transparent. Et puis, j'ai commencé à les faire sur des repose-pinceaux. Et je pense que la dernière étape, ce sera de migrer ça sur des tasses.
D'accord.
Donc, voilà. En fait, je pense que je suis retournée un peu aux sources. La nature, mais aussi l'enfance. Pour moi, c'est quelque chose qui m'imprègne. Et le savoir-faire des brodeuses bretonnes, même si dans mon enfance, je ne voyais pas beaucoup de dames qui avaient
Des coiffes.
J'allais souvent quand même au Fesnoz.
Oui.
Et à l'époque, il y avait encore quand même pas mal de cercles qui dansaient. Et je trouvais que leurs costumes étaient juste incroyables.
Oui, donc, et c'est vrai, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas les costumes ou le folklore breton, c'est vrai que moi aussi, je viens d'un endroit où il y a encore ce folklore. Et heureusement, c'est des costumes. En plus, chaque région, presque chaque commune a...
Chaque pays
breton a son propre costume. Et c'est vrai que c'est magnifique.
Ouais, tout à fait. Non, absolument. Et je pense qu'on est en train de redécouvrir justement via l'engouement qu'il y a
tout
récemment pour la broderie aussi.
Oui.
Et puis... je crois que c'est Hervé Jaouen qui est un couturier, en tout cas quelqu'un qui travaille à la maison de haute couture et qui a remis le costume breton de Cornouailles à la mode, dans le sens où il l'a transformé. Il l'a remis au goût du jour, il en a fait quelque chose qui est juste absolument incroyable. Ouais, moi, je suis tombée en admiration devant ce genre-là. Donc, je sais que mes prochaines collections, je vais essayer aussi d'aller plus... Parce que là, je suis partie sur de la broderie, mais ça pourrait être de la broderie d'un autre pays. Mais j'aimerais aller sur les tasses, en tout cas, sur des broderies qui font plus penser aux motifs bretons. Tout en me disant qu'il faut que je fasse attention à rester... rentable.
Oui, c'est ça.
C'est toujours un petit peu... J'arrive pas à m'arrêter, en fait. C'est ça, mon problème. Moi, j'adore aller tellement dans les détails et tout en finesse que je peux y passer des heures. Donc, voilà.
Ouais, mais peut-être que bientôt, on verra dans ta boutique des costumes bretons en céramique. On ne sait pas.
Je ne pense pas.
Ça va être difficile. Mais c'est ça. Mais souvent, on revient à nos racines pour... de temps en temps, pour s'inspirer aussi. Donc,
j'avais fait une collection Gavrinis, donc le fameux cairn de Gavrinis dans le golfe du Morbihan.
D'accord.
Que tu dois connaître.
Ouais.
Et qui là était vraiment des motifs géométriques préhistoriques.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et c'était une chouette collection qui avait bien fonctionné sur des plats. Et je me suis dit que j'allais sans doute la recommencer aussi, parce que celle-là, j'aime bien. On n'est pas dans la précision. On est plus dans le lâcher-prise de ces motifs qui font penser aussi un petit peu aux motifs qu'on trouve en Australie, des choses comme ça. Donc voilà. Mais il y a certainement un attrait pour le local.
Certainement. Et au niveau des collections, comment ça se passe ? C'est comme dans la mode, tu as des collections, plusieurs collections par an, ou c'est au feeling ou selon tes inspirations ?
Voilà, c'est plutôt au feeling, dans le sens où personne de mes clients n'attend la collection, puisque quelquefois il y a des nouveautés, quelquefois il n'y en a pas. J'ai des choses que je fais régulièrement. La collection Jardin japonais, qui est donc cette collection rosée. Tant que j'aime faire les pièces, je les fais. Et aussi qu'elles se vendent, évidemment. Je n'ai jamais eu pour l'instant un moment où je me suis dit « j'en peux plus de cette collection, je ne veux plus les voir dans l'atelier, je ne peux plus les faire ». Par contre, j'ai eu ça avec certaines pièces, où à un moment donné, en fait, c'est pas tant la vue, l'esthétique de la pièce qui me pose un problème, c'est le processus. J'ai envie d'avoir un processus différent.
Mm-hmm.
J'ai envie de passer à autre chose, à un autre support.
Et en fonction des formats de pièces, que ce soit des bols ou que ce soit des vases ou que ce soit des tasses, je vais utiliser finalement une décoration différente. Ouais. Donc, je travaille assez par période de l'année. C'est-à-dire que je sais que février-mars, je vais faire plein de vases. Parce qu'il va y avoir des fleurs qui vont arriver et que j'ai envie aussi. Mmh. Noël, clairement, il y a toujours les décorations de Noël quand même. Et je les commence, tu vois, il y en a sur la table. Je les commence assez tôt. Par contre, les palettes en porcelaine, les palettes en grès, ça, c'est des collections assez fixes. Mais tu vois, là, je me suis réveillée il y a 2 jours en me disant que j'allais faire une palette en forme de potiron.
Ah voilà, pour Halloween.
Bon, je serai trop tard pour Halloween parce que je me suis réveillée il y a 2 jours et qu'elles ne sont pas prêtes, mais ce sera pour le mois de novembre. Mais de temps en temps, je me mets aussi des freins. Je me dis, non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Et puis à un moment donné, je me dis, mais j'ai envie de faire ça.
Oui, donc fais-le.
Voilà, fais-le. Et puis tu verras bien.
On revient encore au ressenti, quoi.
Ah oui, ouais, non, ça doit vraiment passer par les tripes avant que ce soit entre mes mains.
D'accord, ok. Et là, tout à l'heure, tu parlais aussi que tu avais fait des céramiques pour des artistes, pour les des poses pinceaux, etc. Mais c'est parti d'une idée ou c'est quelqu'un qui t'a demandé un jour
C'est quelqu'un qui m'a demandé.
Ah, c'est ça. Ouais.
C'est quelqu'un qui m'a demandé, elle m'avait acheté des petites tasses, c'était il y a 5 ans, et elle m'a demandé, est-ce que tu fais des palettes en céramique ? J'avais jamais entendu parler de ce produit-là.
Mm-hmm.
Et elle m'a dit, tiens, regarde un petit peu. Il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais il n'y en avait pas trop en Europe. Elle m'a envoyé des exemples aux États-Unis. Et donc, j'ai compris ce dont il s'agissait. Et je venais de graver un tampon, un gros tampon en forme de d'ombelle qui est en fait mon logo. Et je ne savais pas sur quoi l'utiliser. J'avais essayé de l'utiliser sur des théières et puis ça ne marchait pas parce que... Ben, c'est arrondi, un tampon, c'est à plat. Enfin, voilà, je n'étais pas satisfaite du résultat. Je me suis dit, mais très bien, je vais pouvoir essayer mon tampon puisque c'est plat. Et en fait, elle était ravie. Elle était tellement ravie qu'elle m'a dit qu'elle allait faire un concours et qu'elle en voulait une autre. Et ben, à l'époque, elle avait quand même 40 000 abonnés. Moi, j'en avais 950. Et je me réveillais tous les matins et j'envoyais 1 000 de plus. Donc, ça a été une explosion comme ça au départ.
Parce qu'elle a partagé ce que tu faisais.
Elle l'a mis en lot pour un concours qu'elle
organisait. Ah oui, d'accord.
Beaucoup de concours.
Ouais, exact.
Beaucoup plus que maintenant. Et donc, les abonnés se sont aussi transformés en personnes qui ont passé des commandes. Et ça a fait boule de neige, tout simplement, au sein de la communauté des aquarellistes, qui aussi avait explosé pendant le Covid.
D'accord.
Et puis, les gens avaient envie d'avoir des objets artisanaux,
ouais.
Des objets uniques.
Oui, c'est ça.
Revenir à... Je suis, c'est vrai, des motifs. J'ai des modèles, mais elles sont toutes différentes. Elles ont toutes été creusées à la main, faites à la main. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis ensuite, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire des petites palettes de voyage aussi. Donc j'ai fait des moules en plâtre. Donc
d'accord.
Je me suis formée avec la personne qui a fait les moules de l'abbaye de Maritsu.
D'accord.
Un Italien très très réputé dans son domaine en Belgique. Et on a créé toute une série de moules qui me permettent en fait de mouler des petites pièces qui vont contenir la même quantité de pigments d'aquarelle.
Mm-hmm.
Parce que comme ça doit être rempli, il faut quand même que ce soit assez régulier et que chaque personne ait la même quantité. Et là, j'ai commencé à travailler, de faire des collaborations avec des personnes qui font eux-mêmes leurs pigments d'aquarelle. J'ai vendu aussi auprès de magasins qui ne vendaient que des produits d'aquarelle. Donc voilà, le bouche à oreille, c'est fait. Et je peux dire que pour l'instant, c'est quand même une grosse majorité de ma clientèle en France.
Oui.
Donc, je vends surtout en France.
Ouais.
Et par contre, ici, au magasin, la boutique est ouverte 3 jours par semaine. Les gens viennent plutôt pour des tasses, des vases, des boucles d'oreilles. De temps en temps aussi, ils savent que je suis ouverte et ils viennent pour acheter une palette, pour un anniversaire, un cadeau ou eux-mêmes. Mais ici, à la boutique, c'est plutôt les produits quand même traditionnels.
D'accord. Et donc, Donc, quand tu dis que tu vends beaucoup pour la France, etc., donc c'est des gens qui te connaissent
Les réseaux
via les
sociaux.
réseaux sociaux. Et est-ce que tu as d'autres pays qui te contactent aussi ou pas?
Bah, avant le Brexit, j'avais beaucoup de clients
Ah
anglais. Et
ouais?
puis, bon, j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué.
Ouais.
J'avais énormément de clients américains aussi. Et depuis les tarifs, j'ai arrêté. Donc, c'est vrai que le marché international s'est un petit peu réduit. Donc, je propose en tout cas la livraison dans la plupart des pays européens. Mais la majorité de mes clients sont au Luxembourg, en France. Et la Belgique commence à remonter un petit peu parce que c'est vrai que comme la boutique est ouverte, mais essentiellement les pays francophones parce que c'est vrai que j'ai switché en fait, comme j'ai plus l'Angleterre et les États-Unis, j'ai repris la communication en français sur les réseaux
D'accord,
sociaux.
d'accord. Ah
C'est
oui,
vrai que
ok.
ça touche aussi un public plus francophone.
Ouais. Et tu travailles seule?
Toute seule.
Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes ou quelquefois tu te dis, ah, j'aimerais avoir quelqu'un avec moi ou.
Et j'aime les deux.
Ouais. Mais oui,
J'aime
tu as
les.
besoin des deux.
Voilà, j'aime mes moments de solitude à l'atelier où je ne fais que ça et je ne suis pas au téléphone et je ne dois pas distribuer mon attention à droite et à gauche. Mais c'est vrai que quand j'ai passé plusieurs semaines juste dans la production, j'ai besoin quand même d'avoir un échange. Et c'est pour ça que, bon, c'est pas que pour ça, mais l'association Madame Papillon me permet aussi d'avoir des échanges avec des personnes sur d'autres sujets, des sujets qui me tiennent à cœur. Ce matin, j'étais à une formation organisée par Womanpreneur. Et voilà, ça m'a fait du bien d'aller voir des personnes, de discuter de comment vendre en direct, parce que moi, c'est vrai que je vends surtout quand même soit à la boutique, donc ça veut dire que les gens viennent à moi,
Ouais.
ou en ligne, les gens aussi viennent à moi, ou si je vais à eux, c'est d'une façon un peu différente. Sur un marché, surtout sur un marché Place de la Monnaie, les gens sont là plutôt pour faire leurs courses, ils vont voir, ils vont venir un peu en touriste. Voilà, comment se positionner, comment aller peut-être les convaincre d'une certaine façon ou se présenter d'une certaine façon, c'était super intéressant. Donc voilà, mais ça peut pas prendre trop de mon temps parce que je pense quand même que je suis quelqu'un qui a plus besoin d'intériorité que de plein de sollicitations et de stimulations.
Mais c'est ce qui aussi est le cœur de ton métier. Comme tu disais, ce sont des gestes lents, il faut apprendre à être patient. Et c'est un métier solitaire hein, au final. Hein. Tu es derrière ton tout ou ta création et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il
Alors,
faut prendre en compte.
absolument, absolument. Par contre, c'est vrai que ce qui me donne de l'énergie aussi, c'est les
Ah
ateliers
oui,
que je
les
donne. Et
ateliers.
ça, c'est encore différent. On est dans la transmission. Mais je donne des ateliers, ils sont vraiment bien expliqués sur le site internet, où on n'est pas du tout dans la fabrication, on est dans le processus. Comme je disais aussi, on est toujours dans le faire, on veut toujours performer, on veut toujours produire. Quand les gens viennent dans mes ateliers, même si c'est un atelier qui va durer 4 semaines, généralement, ils produisent une pièce. Donc, on est dans ce réinvestir ses sensations, réinvestir le temps lent, réinvestir le lien aussi qu'on crée avec les gens qui sont autour de la table, dans une vraie discussion, souvent très apaisé, où on fait le break entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commence l'atelier, je fais faire un petit exercice pour laisser au dehors tout ce qui doit être laissé au dehors, les enfants, le mari, le chien, le travail, tout. Et quand elles sont ici, c'est un temps pour elles. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très, très important. C'est pas non plus un temps pour leur production. C'est un temps pour elles.
C'est intéressant. Et d'ailleurs, pourquoi tu as appelé ton atelier Pottery Whistle?
Poetry Whistle.
C'est le
Alors en anglais déjà parce que ben, j'étais en Belgique et je me suis dit il faut que je prenne un truc voilà, qui soit dans les deux langues. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers de céramique où c'est le nom et le prénom de la personne, puis on rajoute céramique derrière. Je pense qu'il y avait à ce moment-là un syndrome de l'imposteur, une volonté de ne pas se mettre en avant, de me cacher derrière, entre guillemets, un nom. Je pense que Rosen, je l'ai mis sur Instagram il y a très peu de temps. Et Je voulais aussi que ce soit clair ce que je faisais. Donc, poterie, oui. céramique, c'était les deux mots qui pouvaient être choisis. On dit toujours que la céramique, c'est au-dessus de la poterie, entre guillemets. Ce n'est pas vrai du tout, hein, mais que la céramique, c'est plus quelqu'un qui... la poterie, c'est un potier, il fait des pots. La céramique, il peut faire des objets non utilitaires, comme si c'était, entre guillemets, mieux. Et je ne sais pas, j'avais gardé cette explication-là et je me suis dit non, j'ai envie d'un truc humble, donc je vais rester avec la poterie. Et puis, ben, voilà... Comment est-ce que je voulais transmettre ce que je voulais transmettre par un nom, ben, avec âme. Ça m'est apparu comme ça un jour, tout simplement. Pottery with. Je me suis dit with what? With heart, avec du cœur. Et je ne sais pas, l'âme est arrivée comme ça. Et j'ai, il y a 2 ans, pensé à changer de nom. Et puis finalement, j'ai fait un petit sondage parmi mes abonnés Instagram et des amis que je connais. Et ils m'ont dit, mais non, ça correspond tellement à ce que tu fais qu'il ne faut pas changer. Donc, je suis restée avec Pottery with Soul.
Et ça rejoint, je trouve, vachement ton identité parce que Pottery with Soul, ça fait très... Bon, il y a le mot soul aussi, ça fait très... Il y a le côté, je ne sais pas, lent, doux. Et ça va très, très bien avec,
un peu éthéré.
Avec ta signature.
Ouais, ouais, un petit peu éthéré, ouais. Puis un petit peu en dehors du monde, du monde bruyant.
Oui, c'est ça, tu parlais aussi de lenteur, de se poser, et je trouve que c'est tout à fait ça, ça fait, enfin, je sais pas, ça fait très,
incarné,
voilà, et, c'est ça. Et est-ce que aujourd'hui, là, on a parlé de ton savoir-faire, de ce que tu aimes dans ton métier, mais est-ce qu'il y a des défis qui, des choses qui sont quand même un peu embêtantes et que tu souhaiterais en parler?
Oui, je crois que le défi principal d'un artisan, c'est autour de l'argent. C'est l'aspect financier, en fait, parce que c'est vrai que c'est la céramique. On produit tout soi-même. Donc, on a un produit de A à Z. C'est pas j'achète un produit et je revends un produit. C'est comme tu l'as dit, comme on l'a expliqué, un temps long.
Oui.
Et c'est énormément aussi de temps passé à ce qui n'est pas de la céramique. Donc, en fait, on a des journées extrêmement chargées et par conséquent, il faut quand même que le seuil de rentabilité soit atteint. Et moi, en toute sincérité, je ne pense pas que je pourrais produire beaucoup plus que ce que je produis maintenant. Donc, j'aurais du mal à arriver à une viabilité financière en faisant que de la céramique. Les ateliers permettent justement de venir un petit peu combler ça parce qu'on n'est pas dans la production. Mais on reste quand même avec des pièces à devoir cuire et ça coûte de plus en plus cher. Et cette réflexion-là m'a amenée à me poser la question, mais est-ce que de toute façon, faire la céramique, c'est ce qui est le plus important pour toi? Et je pense que je suis arrivée à la conclusion que non. Ça a été un moyen, et c'est toujours un moyen pour moi, de transmettre, de donner justement ce petit univers de douceur, que les gens puissent prendre un peu de ça chez eux. Mais je pense que j'ai envie d'étendre ça de façon plus large à des publics qui sont des publics un peu en souffrance, des femmes en burn-out, des adolescents en difficulté, et offrir un espace où on peut, avec la céramique ou sans la céramique, avec différentes techniques d'écriture partagée, de journal créatif, etc., venir déposer ses émotions, en fait, pour qu'ensuite on se sente un petit peu mieux et recréer du lien, c'est-à-dire recréer des moments où on est avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on se rende compte que c'est OK et qu'on peut réussir à avoir des conversations apaisées, parler de tout, de rien, vraiment... En pleine déconnexion de son téléphone, quoi, en fait. Donc voilà, je m'oriente plus vers quelque chose d'un peu global. C'est ça qui me fait me dire que je vais continuer. La céramique sera toujours là, c'est une partie importante, et elle sera complémentée par d'autres pratiques, en fait.
D'accord. Et justement, dans il y a un de tes ateliers qui s'appelle le Kintsugi.
Ça consiste, ça consiste en quoi?
Alors, le kintsugi, donc c'est pas moi qui vais donner l'atelier. Hein.
D'accord.
Je suis pas formée en kintsugi, c'est une spécialiste qui vient des Pays-Bas. J'aime bien m'entourer de gens spécialisés aussi, qui ont leurs propres connaissances. Et ça faisait un bout de temps que je voulais aussi, moi, faire un atelier kintsugi. C'est une pratique japonaise traditionnelle qui consiste à réparer les céramiques avec de la sève d'arbre et de l'or.
Ah oui,
livre.
Ça, c'est très beau.
Voilà.
Et donc, puis la symbolique est très belle aussi.
Exactement. Donc, il y a la symbolique de réparer et continuer à se servir parce qu'en fait, la technique japonaise traditionnelle est la seule qui continue à permettre d'utiliser la pièce de façon alimentaire. Mm-hmm. Parce qu'il y a des techniques maintenant avec de l'époxy et puis de la poudre d'or. Moi, j'en utilise de temps en temps quand je casse des palettes, mais ce n'est pas des pièces alimentaires.
D'accord.
Et de toute façon, donc, si on utilise cette technique-là, on ne peut plus utiliser la tasse pour boire un café. Par contre, le kintsugi, absolument, c'est vraiment une technique ancestrale où on prend le temps et il y a une technicité très, très particulière et des produits particuliers pour venir réparer des pièces. Donc, voilà, ça c'est...
D'accord, c'est super.
Ouais, c'est un très chouette atelier. Ouais. Et je me suis rendu compte par le hasard du calendrier que ça tombe le jour de la journée de l'artisan.
Eh bien, voilà.
Donc, voilà, je serai ouverte.
Qui a quelle date ?
Donc, le 16 novembre.
D'accord.
Ouais. Okay. Et pour l'instant, cet atelier rencontre un franc succès parce que je suis quasiment complète plus d'un mois en avance, ce qui n'est pas toujours
c'est
le cas.
C'est super.
Ouais,
mais oui, ça m'étonne parce qu'il y a un beau symbole derrière et c'est vrai que c'est très beau. Quand on
Tout à
voit
fait.
Ça, c'est magnifique. Et tu as aussi un e-book.
Oui, alors ça, c'était une petite nouvelle.
Petite nouveauté.
Alors, cet e-book, il est né de justement cette réflexion que j'ai eue de me dire que je voulais aider les gens d'une façon différente qu'avec la céramique, parce que c'est vrai que la céramique aussi, ça limite. Tout le monde n'a pas accès à un atelier de céramique, tout le monde n'a pas accès à un four. Et j'avais envie d'aider... Là encore, les femmes en burn-out, et souvent des femmes créatives comme moi, qui n'ont plus d'énergie pour rien du tout. Et on a tendance à se replier sur soi, on a tendance à se renfermer, on a tendance à ne plus rien faire. Et leur donner quelques pistes, mais vraiment hyper concrètes, de simplement se poser la question le matin. Donc c'est en fait un carnet créatif, un journal créatif. Poser la question tous les matins ou tous les soirs, une question, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, par exemple. On se met devant une feuille de papier, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, et on écrit. Ou on prend des feuilles et on colle. Parce qu'en fait, c'est une activité de collage, d'écriture et de dessin, de dessin spontané. Et en fait, chaque jour, chaque matin ou chaque soir, un quart d'heure, et on vient le relire et c'est en fait très thérapeutique dans le sens où au fur et à mesure de l'évolution du burn-out, on se rend compte qu'on a eu des jours avec, on a eu des jours sans et c'est OK. Mais on continue en fait, on continue à avancer, on continue à progresser et à un moment donné, voilà, les choses vont apparaître de façon beaucoup plus claire. Mais c'est aussi une façon de donner un peu d'espoir parce que c'est vrai que quand on est en burn-out, on a aussi le risque de tomber en dépression.
Oui.
On n'est pas en dépression quand on est en burn-out, mais c'est une possibilité. Et avec quelques petites astuces, quelques petites choses, alors ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais j'ai eu envie au moins de proposer ça et puis de voir si quelques personnes pouvaient être intéressées. Mmh. Il a été vendu pendant une période de 10 jours parce qu'il faisait partie d'un ensemble d'e-books, mais il sera mis sur mon site internet où les gens pourront l'acheter indépendamment de l'ensemble.
D'accord.
Et en fait, j'ai tellement aimé cette expérience et je dois dire que j'ai eu des super bons retours des gens qui l'ont acheté que je suis déjà en train d'écrire le tome 2.
Waouh, super.
On verra bien ce que ça va donner. Mais ça aussi, c'est la transmission. C'est-à-dire, moi, j'ai emmagasiné depuis 2020 tellement de choses qui m'ont aidée, mais ce n'est pas une méthode. C'est simplement... Voilà, c'est ça qui m'a aidée. Je te prends la main, je te montre comment je l'ai fait. Fais-le à ton rythme. C'est pas sortez-vous du burn-out en 25 jours.
Non,
pas du tout ça.
La méthode pour sortir du burn-out.
Non,
je crois que c'est propre à chacun.
Moi, de temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça, c'est complètement à l'ouest.
Oui, mais comme beaucoup de choses, hein. C'est comme voilà, une méthode, je sais pas moi, perdre 10 kilos
Bah, de toute façon,
en
il y a des
trois
méthodes pour tout.
semaines. Oui, voilà.
Voilà.
Ouais.
À l'heure actuelle, il y a des méthodes pour tout. Il y a des méthodes pour être riche, pour être en bonne santé, pour être heureux. Vous ouvrez Instagram, vous avez la méthode.
Ouais, c'est clair. Mais bon, je pense que effectivement, il y a des choses à apprendre, mais il y a aussi, je pense, faire confiance à. On en parle encore, de se faire confiance, quoi.
Il faut
Voir ce qui nous fait
pas
du bien à nous.
s'écouter.
Oui.
Mais on a souvent éteint cette petite voix.
Bah, parce qu'on nous l'a. Enfin,
Parce qu'on nous a dit
combien de
arrête
fois
de
j'ai entendu
t'écouter.
arrête de t'écouter, vas-y, quoi.
Mort sur ta
Oui,
chique.
oui, oui,
Ça ira
oui.
mieux demain.
Ouais.
Encore un petit peu.
Ouais.
Voilà. On n'est pas dans la complaisance.
Non.
On est simplement dans. Mais voilà. Mon corps, c'est lui qui m'a dit à un moment donné, tu ne peux plus sortir de ton lit. Donc il sait quand même des choses. Si j'ai moi des problèmes de dos, clairement, c'est que j'en fais trop à l'atelier. C'est pas psychologique, c'est juste mon corps qui me dit attention. Et si je veux pas arriver à un lumbago, bah, il faut que j'arrête un petit peu avant. Les insomnies, c'est généralement que j'ai quelque chose que je rumine inconscient, et il faut que j'essaye de mettre le doigt dessus. Et voilà. Il y a des gens, ça peut être autre chose, ça va être des maux de gorge, ça va être des inflammations, des tendinites. Plein de choses.
Ok. Et oui, non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est marrant parce que chaque personne, ça se manifeste à un endroit dans son corps et chaque personne est différente là-dessus.
Tout à fait. Ouais, absolument.
Donc oui, c'est important de s'écouter. Et s'écouter, ce n'est pas dire se laisser aller loin de là.
Non,
S'écouter, c'est être.
c'est
Parce
l'inverse.
que, voilà, oui,
C'est complètement
mais
l'inverse, en
moi,
fait.
je sais qu'on. Bah, quand on est plus jeune ou avec notre éducation, on nous dit souvent, mais arrête de t'écouter. Mais en fait, la définition n'était pas la bonne.
Non.
C'est tout.
Non, non. Mais oui, il faut toujours, de toute façon, là aussi, on en revient, il faut toujours faire. S'ennuyer, rêvasser, c'est pas des choses qu'on a encouragé nos jeunes à faire,
Ouais,
avec
pourtant.
des activités 3-4 fois par semaine, à courir à droite, à gauche,
Avec un agenda millimétré.
de ministre, hein, souvent.
Alors que l'ennui, en plus, bah, on y revient à tout ça, mais l'ennui est très, très bénéfique pour les enfants et même pour les adultes, mais s'ennuyer, ça développe notre créativité, hein.
Tout à fait.
Ou même aller se balader pas forcément avec un but, aller se balader tout simplement en forêt ou n'importe où, au bord de la mer, c'est vrai que ça aère l'esprit. Et
Et puis
souvent,
ça nous permet
c'est
de
là que
penser à
viennent les
d'autres
idées.
choses. Voilà,
Voilà. Et
exactement.
il y a
C'est là qu'il y a des tas de connexions qui se font.
des connexions très furtives parfois, mais qui arrivent et
Ben
qui
oui.
parfois te permettent de débloquer certaines situations.
Le fameux moment aha sous la douche.
Ah oui.
On l'a tous eu. On l'a tous eu. C'est quand on est dans cet état un petit peu où finalement on met du linge à sécher quelquefois. Moi, j'ai eu les meilleures idées en
C'est ça.
mettant du linge à sécher. Et non, on est toujours pris par. On doit faire des choses qui soient rentables, intéressantes, qu'on peut éventuellement montrer sur les réseaux, peut-être aussi
Oui, c'est ça.
susciter un
Il y
intérêt
a
ou
toujours un
l'envie.
intérêt derrière.
Voilà. Donc juste prendre un moment pour soi. Ça arrive très rarement.
Oui. Et redescendre. Et parfois, ça nous permet de partir après plus avec une meilleure énergie. Et c'est pas forcément de la perte de temps, justement, ça peut nous faire gagner du temps de s'ennuyer ou de s'ennuyer, de ne rien faire.
Alors en fait,
On a les idées plus claires et ça va plus vite après.
on utilise le cerveau qui n'est pas le cerveau automatique, du coup. Et le cerveau automatique, c'est celui qui nous permet de faire les choses vite, de façon efficace, mais de façon aussi catégorisée. C'est-à-dire qu'on ne va jamais être créatif quand on suit notre cerveau automatique. Si on se met dans un mode où on n'est plus sur justement le cerveau automatique, on a accès à quelque chose de différent.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que je pense que dans les sociétés actuelles et les entreprises actuelles, on a beaucoup de gens en burn-out, c'est qu'on est tout le temps sur le mode automatique et ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'être humain d'être tout le temps sur le mode automatique. Et on ne nous demande pas vraiment beaucoup de réflexion, de créativité, de sortir de l'efficacité, de la rentabilité.
Oui, et puis on est sursollicité. Hein.
Et en plus, ben oui, parce que comme tu fais les choses bien et de façon hyper efficace, je vais t'en donner encore plus.
Oui, oui, et puis même les nouvelles technologies, c'est génial, hein, je ne dis pas, hein, mais si on ne répond pas dans la minute, ça peut être, on peut nous le reprocher, ça peut être compliqué. Alors qu'on est dit non, mais priorise, priorise. Oui, priorise, bah alors à ce moment-là, les petites choses qui viennent dessus, je vais répondre, mais à un moment donné de la journée, le midi ou le soir, mais pas forcément à la minute.
Et ça, je dois dire que quand je suis dans mon atelier, moi, je déconnecte tout. J'ai mon téléphone.
Oui, c'est ça.
Mais
de toute façon,
je suis silencieux.
Oui.
Mes enfants savent, j'ai que mes enfants qui que je vois et mon mari. Mais sinon, je n'ai rien. Aucune notification, pas de ping, de ting, de dong.
Mais c'est génial.
Et ça, ouais. Je pense qu'en fait, c'est un truc qui me sauve, vraiment. Hein.
Et je pense que ton métier aussi y contribue, parce que quand tu as la main, je sais pas, dans la terre ou quand tu es avec ton tour, tu peux pas non plus, tu dis, tiens, il y a un message, je vais le lire, je reprends. Non.
Non, non c'est vrai. Aussi. Donc en fait, ça aide à ralentir complètement sur plein de plans différents.
Ouais. Et aujourd'hui, ce sera ma dernière question avant de passer aux questions du tac au tac. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd''hui ? Plein de choses.
Alors, ce qui est important pour moi aujourd'hui, je dirais toujours mon équilibre. Ça, c'est le truc que je ne vais plus jamais lâcher de ma vie. Et construire la suite autour de cet équilibre.
Mm-hmm.
Je n'ai pas de velléité de vendre 150 000 pièces à l'année. Je n'ai pas de velléité de faire des têtes de talk sur le burn-out. Je n'ai pas de velléité d'écrire un best-seller. Non. Donc,
sur les costumes bretons.
Voilà. Je pense que je veux juste apporter ma pierre à l'édifice d'une façon qui me permette d'en vivre.
Mm-hmm.
Et cette recherche, je ne peux pas la faire toute seule. Donc, pour moi, ça va passer par des formations, ça va passer par des workshops, des ateliers, des échanges. J'ai toujours eu besoin d'emmagasiner un certain nombre quand même de connaissances avant de ressortir quelque chose. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup avant d'extérioriser. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il va falloir quand même que j'accepte que cet équilibre sera un peu précaire pendant quelques mois encore, que je n'ai pas la solution à tout, je n'ai pas la réponse à tout, mais que je ne me stresse pas trop non plus, parce que je pense que les insomnies, c'est un peu lié à ça. Donc voilà, le truc le plus important pour moi, ça va être de naviguer les prochains mois en restant toujours en bonne santé, santé physique et mentale, et en trouvant cet équilibre sur le long terme.
Oui, puis
voilà, ça va prendre du temps.
C'est ce qui va te permettre d'avancer aussi dans ton projet.
Oui,
oui, oui.
Donc, je sais que la plupart des projets sont lents.
Oui.
Moi, de toute façon, je suis OK avec ça. Je ne veux pas quelque chose qui va arriver demain. Je pense que plus ça a été construit de façon lente, plus c'est stable.
Mm-hmm.
Je vois, ça fait 5 ans maintenant. Je n'ai pas eu de difficultés financières majeures. Voilà, ça prend du temps. C'est juste que je ne vais pas devenir millionnaire, mais ça tombe bien, ce n'est pas mon objectif.
Oui, non, mais et puis de toute façon, comme on voit, hein, toute entreprise ou projet, on croit toujours, non, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est des années, comme tu disais tout à l'heure aussi, la répétition du geste pour réussir à faire quelque chose, bah oui, mais c'est pareil pour tout le monde. C'est comme un pianiste, il n'a pas... il fait ses gammes, il n'a pas fait son premier concert le lendemain d'avoir commencé ses cours de piano. Des fois, ça met des années. Donc,
non, c'est vrai.
Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce que comme on est dans une société d'immédiateté, souvent les gens tendent à croire, bah oui, c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, pour enfin, en rigolant, mais oui, je peux être riche demain. Bah, oui, mais bah, alors commence à faire quelque chose déjà, parce que...
Ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ouais. Et puis surtout, si ça nous convient. Voilà, moi, j'ai 52 ans, j'ai assez donné pour pouvoir maintenant me dire aussi que je m'écoute un peu.
Ouais,
que voilà, tout à fait. C'est la fin de ma vie. Moi, je me suis toujours dit... Ça ne me dérange pas de travailler plus tard que 67 ans si je fais un job plus
cher. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
L'idéal, ce serait de trouver un ensemble d'activités autour de l'aide aux personnes qui me permettent de continuer ça jusqu'à ce que j'ai plus l'énergie pour
faire. Oui, c'est ça. Oui. Ah, moi, j'adore ça. Enfin, je suis très admirative des gens qui continuent. Ça, je trouve ça génial parce que ce sont des gens, des passionnés, des gens qui aiment ce qu'ils font. Alors, si tu es d'accord, on va passer aux dernières questions. Donc, je vais juste te demander de répondre très rapidement. Et si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je n'ai pas de cadeau pour toi à la fin. Donc, voilà.
C'est bien dommage.
Mais voilà, ce sont des petites questions que j'aime bien. Et donc, on va y aller.
Pas le questionnaire de Proust. Quoi.
Voilà. Non.
Okay.
Non, je ne vais pas aller jusque-là. Quelle est la céramique que tu as créée dont tu es particulièrement fière?
Oh là, ok. Je pense
faire un choix.
Que... Oui, ça va être très compliqué. Je pense vraiment que c'est une de mes premières pièces où j'ai travaillé la porcelaine. En lâchant prise, en étant vraiment dans l'inspiration du moment. Et en fait, j'ai gardé cette pièce. Elle est moche comme tout, mais elle contient beaucoup, beaucoup de gestes que j'ai utilisés après, justement en les affinant. Mais ça contenait déjà une essence, en fait.
D'accord. Quelle est la matière que tu préfères travailler?
Alors, j'adore travailler la porcelaine, mais ça ne fait pas très longtemps. Donc, elle est compliquée à travailler. Donc, en termes de facilité, le grès, j'aime bien. Mais sinon, je pense que je vais continuer à travailler la porcelaine et que ce sera chouette après.
Quelle couleur te définit le mieux?
Le rose.
Le rose. Rose, rosaine, c'est très voilà, doux, très beau.
Le rose.
Est-ce qu'il y a un art qui t'émeut plus qu'un autre?
Oui, je pense que je suis très sensible à la musique et l'opéra.
Est-ce que tu as un lieu qui t'inspire plus qu'un autre?
Bien sûr, la Bretagne, au bord de la mer, et Groix, particulièrement la rade de l'Orient, en fait. Ouais. Tout cet endroit-là, je trouve ça magique.
Est-ce que tu as un mot qui résume le mieux l'esprit de Pottery Whistle?
Oui, je pense. Ben, c'est sérénité.
Oui, c'est vrai. Et ça se voit, ça se sent. Qu'est-ce qui te fait sourire au sens propre du terme?
C'est-à-dire
en ce moment. Qu'est-ce qui te fait sourire aujourd'hui, je sais pas, dans ta vie ou dans ce que tu as pu entendre, je sais pas, ce matin, à la radio, je ne sais où.
Mais vraiment sourire, quoi.
Oui, oui, qu'est-ce qui te fait sourire?
Qu'est-ce qui me fait sourire? Les chats qui passent dans mon jardin.
Oh, ouais.
Parce que j'ai pas de chat. Mon mari et mes enfants sont asthmatiques. Et alors, voir ces chats... Et leurs expressions et leurs attitudes, et ça me fait sourire.
Ouais. Et un chat, c'est aussi, c'est très... quand le chat s'étire, etc., c'est... Il prend son temps, c'est lent, quoi.
Ouais.
Est-ce que tu as une expression, une citation qui te colle à la peau, qui te permet d'avancer et de croire en ce que tu fais?
Alors, j'en ai plusieurs, parce que je les ai accumulées au fur et à mesure. La première, c'est quand on m'a dit qu'on pouvait prendre une décision et qu'elle n'était pas irréversible.
Ouais.
Donc, ce que je décide maintenant ne me définit pas pour toute la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps en tête. Et
rien n'est définitif.
Voilà, rien n'est définitif. Et la deuxième sur laquelle je me suis construite, c'est en opposition à choisir, c'est renoncer, que j'ai toujours détesté, et j'ai remplacé par choisir, c'est décider.
Mm-mm.
Parce que c'est un choix positif. On va vers l'avant et on n'est pas dans le regret.
Tout à fait.
Et voilà, avec ces deux choses-là, j'avance.
Choisir, c'est... Alors, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, choisir, c'est décider. Je suis complètement d'accord. Ou choisir, c'est... Souvent, je me dis, choisir, c'est avancer, en fait.
Oui, mais c'est ça, c'est
Ouais.
ça. C'est décider d'avancer. C'est pas regarder en arrière. Tout
Oui,
à fait
oui.
d'accord.
Et c'est un choix conscient. Donc, choisir, c'est renoncer. Alors, bien sûr, on met autre chose de côté, mais c'est pas... Et c'est pas dire non,
Dans
quoi.
la vie, quoi. Et puis voilà, exactement. Avec les deux ensemble, je trouve que finalement, c'est très bien. On peut changer d'avis et de toute façon, l'avis qu'on a pris, c'est notre avis.
D'accord.
Donc,
Mais merci,
avec
Rosane, pour
plaisir, Céline.
ce joli moment dans cet atelier si doux. Merci pour ça et je te dis à très bientôt.
Peut-être à une troisième fois.
Voilà. Jamais 203.
C'est ça.
Merci.
Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir encore plus sur l'univers de Rosen et de pousser la porte de son atelier boutique Place de Mai à Bruxelles. Je vous invite à découvrir ses créations sur son site potterywithsoul.com ou sur son compte Instagram sous le même nom, ou encore pourquoi pas tester l'un de ses ateliers. Roselyne est une personne douce, créative et philosophe à ses heures et c'est ce que j'aime chez elle. Ses créations sont vraiment à son image. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.